Et au menu de notre club cet après-midi, l'art français, des accords, des mets et des vins. On parlera des mésaventuriers de la science et puis d'un programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une application qui va faire du bruit.
Oui, elle s'appelle Noise Capture, la capture des bruits, et va vous permettre d'aider les scientifiques à cartographier le bruit dans votre ville. On découvre cet outil de science participative avec l'acousticien Judicaël Picot.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise ce club préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Chantal Le Montagnier et Thomas Lehété.
La tête au carré. Le club. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et bienvenue aux nouveaux membres de notre club des Têtes au Carré, Alain Prochian, Jean-Robert Pitt et Jim Jourdan. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bienvenue Alain Prochian, il s'appelle PAUSE, c'est un programme d'aide à l'accueil des scientifiques en exil. Ils sont nombreux à venir se réfugier en France.
Oui, ils sont assez nombreux, c'est-à-dire que le programme ayant commencé il y a 9 mois, nous avons déjà mis à l'abri, ou essayé de mettre à l'abri, s'il y en a qui n'ont pas pu arriver encore, un peu plus de 60 personnes. Mm-hmm. Nous avons l'objectif d'une centaine de personnes par an, et les demandes ne font qu'augmenter, voilà, oui.
On verra avec vous quelles sont les différentes raisons, en tout cas, qui peuvent pousser des scientifiques à venir nous rejoindre ici en France. Jean-Robert Pitt, les accords mai 20, c'est un livre que vous avez dirigé, qui sort aux éditions du CNRS. Alors justement, cet accord entre la nourriture et le vin, c'est une véritable spécificité française, hein?
Oui, c'est une invention du début du 19e siècle qui date de l'Empire, qui est liée à une grande révolution, qui est le passage du service à la française au service dit à la russe.
C'est
en fait un service à la française rénové, mais qui permet, par une succession de plats, d'imaginer des accords, des harmonies entre le solide, les mets, et le liquide, ouais. Les vins.
On en parle avec vous dans un instant. Et puis Jim Jourdan, vous êtes l'auteur de cette bande dessinée Les Mésaventuriers de la Science, qui paraît aux éditions Maki Sapa. Alors ce sont des anecdotes croustillantes autour du travail de terrain des scientifiques qui vous ont inspiré cette bande dessinée.
Oui, tout à fait. En fait, j'étais tombé sur Twitter sur des scientifiques qui échangeaient leurs anecdotes de terrain. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'ai commencé à illustrer. Et du coup, par le biais d'un financement participatif, c'est finalement devenu un livre, voilà, en 3 langues, dont la version française, Les Mésaventuriers de la Science.
Et on parlera par exemple de cette biologiste qui s'est collée accidentellement la main sur le dos d'un crocodile en voulant y fixer une balise GPS. Ça fait partie des mésaventures justement dont vous parlez et que vous illustrez dans cette BD. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur ces différents sujets. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et à la une de la science aujourd'hui, une application qui va aider les scientifiques à lutter contre la pollution sonore. Voilà, si vous vivez dans ce type d'environnement sonore, eh bien vous allez pouvoir mesurer vous-même le niveau de bruit lors de vos déplacements et aider en même temps les chercheurs à cartographier la pollution sonore de votre ville. Et ça, tout simplement avec votre téléphone. Voilà ce que propose cette application Noise Capture, développée par le CNRS et l'IFTAR. Axel Villard, on en discute aujourd'hui avec l'acousticien Judicaël Picot.
Bonjour à vous, Judicaël Picot.
Bonjour.
Vous êtes donc directeur du laboratoire acoustique et environnement de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Et vous avez imaginé depuis 2014 cette application Noise Capture pour téléphone Android seulement pour le moment. Tout d'abord, expliquez-nous un petit peu ce que permet de faire l'application.
Alors, c'est une application développée en collaboration avec le CNRS, des spécialistes de l'information géographique, qui vise à pouvoir cartographier le bruit dans l'environnement plus facilement qu'on ne peut le faire aujourd'hui avec des appareils professionnels. Donc l'utilisateur ou le contributeur a son téléphone dans la main, lance l'application, se déplace, enregistre des bruits, donne une évaluation de sa perception de l'environnement sonore et transfère ces données sur un serveur qui nous permet ensuite de collecter l'ensemble des données, tous les contributeurs, et puis de cartographier ou d'avoir en tout cas des informations pour mieux évaluer l'environnement sonore.
Alors on l'a testé, hein, cette application au bureau, Axel, ça marche bien.
Ça marche bien,
tout
c'est
le
très
monde y est allé de son petit cri pour faire monter les décibels. Comment ça se passe concrètement, Judicaël Picot? L'application collecte les données de notre microphone en continu ou pas?
Alors déjà, c'est l'utilisateur qui déclenche la mesure, hein. Il n'y a pas de mesure en arrière-fond ou en arrière-tâche, hein. Il faut être volontaire. Ensuite, le microphone du téléphone capte les sons. On réalise un traitement qui permet de calculer des indicateurs acoustiques très simplifiés qui sont ensuite envoyés vers le serveur. Il n'y a aucun enregistrement audio, hein, c'est important. On respecte la vie privée des utilisateurs. On ne fait que transférer des données précalculées qui n'ont pas de contenu ou d'informations sur le contenu en fait de la parole, par exemple.
Mmh. Et qu'est-ce que vous faites, vous, alors, de toutes ces données une fois qu'elles arrivent dans vos serveurs?
Alors, l'objectif, c'est d'avoir une base de données relativement importante pour pouvoir avoir une bonne évaluation de l'environnement sonore. L'objectif, c'est vraiment, dans un premier temps, de collecter de la donnée, de la traiter, de la nettoyer, de la qualifier pour pouvoir produire des cartes de bruit qui soient ensuite pertinentes, par exemple, pour une collectivité qui souhaiterait l'utiliser pour établir des plans d'action, préserver des zones calmes, lutter contre le bruit dans des zones où il y a des bruits relativement élevés. Voilà, c'est un peu l'objectif.
Mais il y a un gros besoin. On connaît mal la répartition du bruit dans les villes.
Alors, aujourd'hui, bon, il faut déjà avoir un peu le contexte. Hein. Il y a une directive européenne qui oblige les villes de plus de 100 000 habitants à cartographier leur collectivité. Ces cartographies ensuite servent à l'établissement de plans d'action. Mais aujourd'hui, elles sont uniquement basées sur de la modélisation. Donc, elles ne permettent pas d'avoir une représentation suffisamment proche de la réalité. Donc là, avec ce type d'application, on est au plus près de la réalité du bruit. Et du coup, les collectivités pourront utiliser ces mesures de manière beaucoup plus pertinente pour établir des plans d'action, comme préserver des zones calmes, par exemple.
Jean-Robert Pitt, on entendait ce mot de cartographie du bruit. Ça doit interpeller le géographe que vous êtes, évidemment. Hein.
Ben oui, les géographes essayent de tout cartographier, d'essayer de comprendre pourquoi les choses se produisent ici et pas ailleurs. Donc le bruit fait partie. Il y a quelques travaux de géographes sur la question, mais moins que dans d'autres disciplines.
Donc cette application va pouvoir justement participer à ces travaux. C'est tout à fait utile.
Et en tant qu'utilisateur de l'application, est-ce que moi j'ai accès en direct aux cartes qui se construisent avec la communauté?
Oui, complètement. L'idée, c'est que l'utilisateur puisse contribuer à la mesure et avoir un retour direct. Donc, il fait la mesure s'affiche sur son téléphone, elle s'affiche sous forme de cartographie, et sur cette cartographie, on peut également afficher l'ensemble des données collectées par les autres contributeurs de manière agrégée. On ne voit pas le déplacement des personnes en question, mais on voit des zones où on regroupe des données, et chaque donnée étant une information sur l'environnement sonore.
Donc si on a bien compris, c'est surtout les environnements urbains qui vous intéressent?
Pas forcément. Alors, c'est vrai qu'on fait souvent le raccourci parce que la pollution sonore, elle est essentiellement perçue, en tout cas beaucoup plus en milieu urbain, hein, puisque pour 2 Français sur 3, c'est une vraie nuisance en milieu urbain. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'évaluer les zones où il y a moins de bruit, où justement on voudrait préserver la qualité des environnements sonores, donc des parcs, par exemple, la campagne, ça nous intéresse également. On ne vise pas que les villes, on vise l'intégralité du territoire.
Ça permettra de mettre en avant les sanctuaires du silence, alors peut-être aussi.
Ben, pourquoi pas. Il faut savoir qu'il y a encore quelques temps, on s'intéressait essentiellement au bruit fort, au bruit gênant. Mais depuis quelques temps, on s'intéresse également à des zones où finalement on a préservé l'environnement avec des niveaux sonores très faibles, et on essaye de s'assurer que dans le temps, on ne va pas perturber ces zones, on essaie de les conserver.
Mais justement, vous en parliez, le son et la localisation au GPS, c'est pas seulement les seules données qui sont fournies par l'utilisateur, il y a d'autres critères qui sont pris en compte. On l'a vu avec Mathieu tout à l'heure quand on a testé l'application.
Oui, alors c'est vrai qu'on s'intéresse à la quantité physique, hein, des indicateurs de niveau sonore classique, comme on mesure avec un sonomètre. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le ressenti des personnes, parce que la perception de l'environnement sonore n'est pas uniquement liée à la valeur physique d'un niveau sonore. Donc on s'intéresse à avoir des informations sur cette perception à travers des tags, c'est-à-dire que le contributeur, lorsqu'il fait sa mesure, a la possibilité de taguer l'environnement en nous précisant le type de source qu'il a rencontré, mais également en donnant son appréciation sur une échelle de 1 à 5 de l'agrément sonore. Donc allant de très désagréable à très très agréable. C'est une information qui est utile parce que au-delà de la production de cartes de bruit avec des données physiques, comme celles qui sont demandées réglementairement, on a aussi pour ambition de produire des cartes de bruit plus corrélées avec la perception de la qualité de l'environnement sonore.
À partir de quand on commence à considérer un son comme étant un son bruyant, justement, Judica El Pico?
Alors, c'est plutôt, on va dire, gênant, bruit gênant, parce que un bruit même de faible amplitude peut être gênant en plein milieu de la nuit, un bruit qui est quelques, enfin, on va dire 60, 70 décibels peut suffire à réveiller quelqu'un. Donc c'est assez difficile de généraliser. Alors évidemment, plus c'est fort, plus c'est gênant, mais pour autant, des sons, même de faible amplitude, peuvent être gênants.
Alors, on imagine bien qu'une application comme ça a besoin de beaucoup de contributeurs. Quelle va être votre stratégie pour essayer de recruter le plus de monde possible ?
Alors, beaucoup de communication, d'information, ça c'est une évidence. Et puis aussi, on va essayer d'animer la communauté, c'est-à-dire qu'on va essayer de proposer des solutions, des mises à jour régulières de l'application pour proposer de nouvelles fonctionnalités. Et puis on va essayer également d'organiser des événements qu'on appelle des Noz Capture Party, où on va réunir des contributeurs intéressés, qu'on va former, on va faire un peu de pédagogie, on va leur expliquer l'utilisation de l'application, on va faire avec eux des mesures pour les encadrer un petit peu, et après ces mêmes personnes pourront à leur tour, s'ils le souhaitent, organiser ce type d'événement, et comme ça on va espérer avoir une communauté de plus en plus grande qui pourra contribuer à notre projet de recherche.
Mais si vous faites trop la fête, ça va faire trop de bruit alors. Oui, ça va fausser les mesures.
Ouais. Mais on veut venir à la Noise Capture Party quand même. On veut être invité absolument.
Hein. Ouais, alors c'est, oui, alors évidemment, c'est façon de parler. Mais bon, le côté festif, les fêtes, tout ça, ça fait partie de notre environnement sonore. Il faut aussi le cartographier. C'est un événement à un moment donné sur un territoire. Et bon, ça fait partie du bruit qui nous intéresse également.
Ah. Merci beaucoup, Judy Caille-Picot. Donc, on a mis sur le site de la Tête au Carré
et
Axel,
sur Facebook aussi,
le nom de l'application Noise Capture. Donc, c'est valable pour Android pour l'instant. Hein,
pour l'instant.
Sur smartphone Apple. Mais ça va venir, vous nous l'avez dit. Merci beaucoup à vous pour votre éclairage. Bon week-end, Axel.
Bon week-end, à lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, si vous êtes asthmatique, il y a peu de chances que vous développiez la maladie de Parkinson. Cette découverte nous vient d'une équipe de chercheurs norvégiens qui vient justement de mettre le doigt par hasard sur le fait que le salbutamol, la molécule utilisée dans les inhalateurs prescrits aux personnes asthmatiques, avait un effet protecteur contre la maladie de Parkinson. Après avoir fait cette découverte en laboratoire, les chercheurs ont cherché une confirmation dans leur registre médical norvégien et ils l'ont trouvé. Une confirmation de taille puisque les personnes ayant reçu du salbutamol au moins une fois au cours de leur vie étaient trois fois moins nombreuses à avoir développé la maladie. Il remarque aussi que le niveau de protection dépend du niveau de consommation de la molécule, une découverte qui va certainement être suivie par des tests cliniques. Une flopée de biodiversité nouvelle en Amazonie, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, a présenté avant-hier un rapport dénombrant 381 nouvelles espèces découvertes dans la grande forêt. Les experts dénombrent 216 nouvelles plantes, 93 poissons, 32 amphibiens, 20 reptiles et oiseaux et 20 mammifères, dont un petit dauphin d'eau douce et un nouveau singe appelé singe Titi. En 17 ans, c'est 2000 espèces qui ont été découvertes par le WWF, qui rappelle que certaines sont malheureusement déjà en danger du fait de la déforestation et des activités humaines. Et puis, les images et vidéos de nature calmeraient les prisonniers. Une étude menée dans une prison de l'Oregon suggère que dans des conditions d'enfermement et de privation de liberté, la vue d'un paysage sauvage ou d'un extrait de documentaire peut être apaisant. Proposé à un groupe de 45 prisonniers à l'isolement, des films documentaires ont été ajoutés aux rotations quotidiennes de programmes dans leur salle d'exercice. Après un temps d'observation, les chercheurs montrent que les prisonniers ayant regardé ces vidéos ont commis 25% d'actes de violence en moins que les autres et se sont également déclarés plus apaisés. Allez, le club dans un instant.
I'm running.
Choose My Color avec Gorillaz.
La tête au carré, le club.
Au menu donc cet après-midi, l'art français des accords mai et vin, les mésaventuriers de la science et puis donc ce programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, ça s'appelle Pause, on en parlera dans quelques minutes. Mes invités Alain Prochian, Jean-Robert Pitt et Jim Jordan et vos questions, vos messages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour les réseaux. Jean-Robert Pitt, on va commencer avec vous. Vous avez dirigé pour les éditions du CNRS cet ouvrage Les accords mai 20, sous-titré Un art français. Alors première chose, moi je ne savais pas que cette spécificité dont on parlait tout à l'heure était inscrite par l'UNESCO en 2010 sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est le repas gastronomique des Français, le rituel qui représente le repas gastronomique des Français, qui est rentré sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité et qui comporte un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles
les accords.
Parmi lesquelles la recherche d'accords mai 20, qui est, on peut le dire, une invention française, même s'il y a des symptômes qui apparaissent au Moyen-Âge, par exemple, en Italie, même peut-être dans l'Antiquité.
Alors c'est ça, j'allais vous dire, les Italiens se défendent pas mal aussi de ce côté-là, quand même. Hein.
Aujourd'hui, parce qu'ils imitent le modèle français. La haute cuisine italienne est sur ce modèle-là, mais pas traditionnellement dans un repas italien. On prenait du vin rouge du début jusqu'à la fin du repas, éventuellement un peu de vin blanc au début pour se mettre en bouche, mais on ne recherchait pas cet accord particulier.
Et quand on,
des mets et des vins.
Quand on traverse justement la planète, finalement, peu de pays ont ce souci de l'accord subtil entre ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent.
Ah oui, très peu de pays, parce que les grands pays gastronomiques, en dehors des pays européens, les grands pays gastronomiques, je pense évidemment à la Chine, au Japon, quelques autres pays d'Asie, ont gardé un service des mets qui est celui que nous avions en France avant la Révolution, je parle des grands banquets, le service à la française, où on met beaucoup de plats sur la table. Oui. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez manger un morceau de poisson, un morceau de viande, un morceau de légumes, tout ce que vous voulez, des sauces acides, des sauces épicées, et vous pouvez pas rechercher ces accords. Encore aujourd'hui, vous allez en Chine, dans les grands banquets, on vous met jusqu'à 40, si vous êtes 10 à table, on vous met jusqu'à 40 plats sur la table.
Oui, c'est ça.
Donc vous prenez toujours la même boisson, souvent c'est une boisson très alcoolisée qu'on sert en Chine, maintenant de plus en plus de vin, mais je vois bien dans les quelques fois récentes où je suis allé en Chine, où le vin rouge est très à la mode dans les banquets, on sert un seul vin rouge, qui est plutôt bon, qu'il soit chinois ou étranger, tout au long du repas.
Oui.
Mais vous allez en Russie, par exemple, où vous avez encore beaucoup dans les réceptions officielles, ces banquets où on est debout autour d'une table, on est une dizaine autour de la table, où il peut y avoir plusieurs tables, et on vous met plein de plats au fur et à mesure sur la table, vous buvez de la vodka ou du champagne sucré et chaud, enfin du champagne, du mousseux russe, mais vous n'avez pas la possibilité de marier les plats que vous aimez, que vous consommez, avec une boisson.
Alors justement, c'est quoi le service à la russe? Parce que vous dites finalement, ça fait deux siècles à peu près qu'en France...
Qui n'a rien à voir avec la gastronomie russe d'aujourd'hui, qui peut être excellente.
Il y a le service à la française, il y a le service à la russe.
Oui, qui est en fait un service à la française rénové, mais qui a été, dit-on, inventé par l'ambassadeur de Russie sous l'Empire, vers 1813 ou 14, qui a subi un accident à l'ambassade d'Autriche au cours d'un bal où il a été brûlé très gravement. Il a été convalescent très longtemps, mais il a continué à recevoir à l'ambassade. Et il ne pouvait plus tendre la main pour prendre un plat ici ou là sur la table, comme ça se faisait dans le service à la française. Ouais. Donc il a demandé à ses serviteurs qu'il y ait une succession de plats et qu'on lui apporte un par un, et il pouvait se servir dans le plat. Et donc c'est devenu le service à la russe, et ça correspond à une époque aussi, c'est Brillat Savarin ou Grimaud de la Reynière, qui sont les deux grands écrivains gastronomes de l'époque, ont beaucoup réfléchi à ça, sur cette idée qu'on pouvait arriver à trouver des harmonies et surtout des émotions en bouche tout à fait nouvelles, en essayant de trouver le vin juste allant avec le plat qui était servi. Et donc, on voit petit à petit, mais il y a eu beaucoup de résistance jusqu'au Second Empire. Par exemple, Carême, qui était le grand cuisinier de l'Empire et qui est mort seulement sous la Restauration, était toujours très attaché au service à la française. Il considérait que pour les princes, et il a servi dans toute l'Europe, il fallait garder le service à la française parce que ça montrait la profusion, la richesse.
Et d'ailleurs, il faut avoir beaucoup de personnel avec le service à la française.
Il faut autant
en salle qu'en cuisine.
Oui. Mais du coup, comme sous l'Ancien Régime, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, qui étaient des gourmets, voire des gourmands, n'ont bu au cours de tous les banquets qu'ils ont faits qu'un seul vin à chaque fois. Ouais. Souvent, c'était du Bourgogne qu'on mélangeait avec de l'eau et de la glace. Et donc, l'idée d'avoir un menu avec plusieurs vins apparaît petit à petit dans le courant du XIXe siècle. Et le triomphe, c'est la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, on est en perte de vitesse, mais ça, c'est une autre histoire.
Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on va en parler dans un instant, parce que dites donc, vous les servez. justement, hein, parce que...
Au moins, c'est ce que je pense au fond de moi-même.
Oui, alors c'est ça, parce que vous êtes ultra critique, hein, vous dites aujourd'hui, une petite troupe de cuisiniers nouveaux, trissotins et précieux ridicules, rivalisent d'effets spéciaux en cuisine et dans la présentation des assiettes, encouragés en cela par certains critiques en désir de reconnaissance, par la plupart des photographes culinaires, et bien entendu par certains clients aussi fortunés qu'incultes, pour qui la provocation est source de pamoison. J'en passe, hein, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup plus que ça dans le livre. Et vous mettez photo à l'appui ce que vous n'aimez absolument pas, en fait, aujourd'hui, dans...
C'est-à-dire
dans cette façon
cette cuisine déconstruite où vous avez dans une seule assiette 25 ingrédients posés à la pince à épiler ou à la seringue.
C'est le côté pince à épiler en fait qui vous agace.
Et la seringue.
Parce que vous avez pas assez à manger.
Vous avez même des chefs qui vous servent une petite seringue en plastique pour que vous mettiez vous-même votre sauce sur un centilitre de sauce sur un ingrédient qui fait la taille d'un dé à coudre.
Et ça vous horripile quoi.
Ben, ça m'horripile et en particulier c'était l'objet de ce livre aussi qui a été porté par l'Académie du vin de France, porté par une grande école de gastronomie qui est Ferrières, portée par un certain nombre de gens qui croient dans ce mariage des mets et des vins, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de restaurants, pas tous heureusement, mais un certain nombre de restaurants à la mode, ceux que je fustige, et que nous fustigeons, je suis pas le seul heureusement, vous ne pouvez plus pratiquer ce mariage des mets et des vins. Les sommeliers s'arrachent les cheveux, je vais pas nommer les chefs, mais dans un certain nombre de restaurants qui ont 2-3 étoiles au Michelin, les sommeliers ne savent plus où donner de la tête. Alors, ils recommandent des vins chers à leurs clients fortunés, mais sans leur suggérer des émotions.
Ouais. Alors, vous dites, un exemple entre mille, à la fin de 2016, l'une des entrées de Pierre Gagnère, chef triplement étoilé de Paris, s'intitule sobrement « Tourteau Saint-Jacques-Oursin », ainsi détaillé sur le menu. Chair de tourteau liée d'une infusion de yuzu vert, suc de clémentine, mousseline de Saint-Jacques, corolle de haddock, corne d'abondance, mousse de carotte, grosse noix rôtie enrobée de lard de Bigorre, mélasse de grenade, bisque d'oursin vieux malt, moscatelle, perle du Japon. Il y avait tout ça ?
Oui, bien sûr. C'est ça que vous pouvez regarder le menu de ce chef, mais il y en a d'autres, hein, comme ça. Chaque plat qui est à la carte, qui coûte quand même 160 à 180 euros, prend 5 lignes.
Ouais. C'est le prix de la rareté, puisqu'apparemment, il y en a peu dans l'assiette.
Il y a beaucoup de travail, hein, il faut choisir les ingrédients, etc. Mais surtout, quelle émotion quand vous avez tant de choses dans la bouche ? C'est, moi, ce que j'appelle une cacophonie, alors que tous les grands chefs de la vieille tradition française disent pas plus de 3 ingrédients majeurs dans un mets.
Ah oui,
et à ce moment-là, vous avez une symphonie et vous pouvez trouver le vin qui lui-même est synthétique par définition. Vous ne pouvez pas avoir de vin déconstruit. Le vin, c'est forcément tout ensemble, une seule saveur. Et là, vous pouvez trouver une harmonie qui magnifie le vin et magnifie le plat. Et la gastronomie, c'est ça.
Est-ce qu'on peut parler d'une vraie science aujourd'hui de ces accords ou pas ?
Non, parce qu'il y a...
Il y a de la subjectivité quand même, il y a du goût.
Oui, par exemple, pendant très longtemps en France, on a servi du vin rouge avec le fromage. Parce que les gens supportaient cette saveur très très amère, ça dépend des fromages, mais vous prenez un Roquefort avec un grand Bourgogne ou un grand Bordeaux, c'est catastrophique. Hein, vous n'avez que de l'amertume dans la bouche. Alors on peut aimer la mer, moi j'aime beaucoup la mer, mais pas dans ce cas-là. Je préfère un Sauternes ou un Banyuls ou un Porto avec un Roquefort, où là, vous jouez en contrepoint. Vous avez du sucré sur du salé et sur le champignon, du pénicillium. Ça, c'est un accord absolument merveilleux. Oui.
Mais alors, si on ne peut pas parler de science, est-ce qu'il y a quand même des règles de base à respecter pour quand même faire en sorte que les goûts aient une ensemble ?
Il y a un certain nombre de règles, mais autant qu'en musique. Hein, je pense que si vous interrogez les compositeurs de musique, ils vous diront que les règles de l'harmonie d'il y a 50 ans n'ont plus aucune valeur. Donc, il y a quand même des modes. Et puis, ça ne me gêne pas, moi, les modes. Hein. C'est comme dans le vêtement, comme dans le langage, il y a des tics, il y a des modes. Le tout, c'est que la mode soit suffisamment posée, je dirais, sur un fond culturel. Malheureusement, beaucoup de chefs, et ce n'est pas de leur faute, hein, ils ont commencé à travailler très jeunes, manquent de culture et donc sont dans une espèce de provocation dans laquelle ils ont l'impression d'exister. Et on les encourage dans ce sens-là, comme
alors,
je le dis.
Le cerveau, évidemment, il joue un rôle prépondérant. La vue, en particulier, il y a des sens quand même qui, sur la nourriture, vous donnez des exemples
tous
d'ailleurs.
Tous les sens communiquent entre eux. Les 5 sens communiquent entre eux. Je trouve dommage de privilégier la vue quand on est là pour manger, c'est-à-dire quand même pour nourrir son corps. Que la vue joue un rôle dans le plat et qu'elle mette en appétit, c'est évident.
Mais ça joue sur la dégustation.
Elle joue sur la dégustation, bien sûr, mais c'est quand même, si on est aveugle, et sourd, on peut quand même déguster et éprouver les émotions gastronomiques. Avec le goût et l'odorat, ça suffit. et le toucher aussi, mais pas le toucher du doigt, sauf si on mange avec ses doigts, mais le toucher de la bouche, qui est extraordinairement sensible, et les consistances jouent un très grand rôle dans le plaisir gastronomique.
Ouais, Christophe Lavelle, qui justement signe un des chapitres, qui est chercheur, indique qu'il y a des travaux confirmés par plusieurs équipes qui ont clairement montré l'influence de la vue justement sur la dégustation. Les chercheurs ont pu montrer qu'un vin blanc coloré en rouge était bel et bien décrit comme un vin blanc quand il était déguisé dans un verre opaque, mais comme un vin rouge quand il était déguisé dans un verre transparent, montrant que justement la vue préalable de la couleur induisait en erreur le dégustateur.
Oui, ben ça, les dégustations dans les verres noirs donnent beaucoup, beaucoup de surprises. Mais vous savez, la vue sur l'étiquette aussi, pour les dégustateurs de vin, est très importante. Si vous mettez dans une bouteille prestigieuse du Jaja, un certain nombre de gens vous diront que c'est merveilleux. Ouais. Et si vous mettez un très grand vin dans une bouteille ordinaire, ils ne le trouveront pas très, très bon.
Ouais.
Donc, c'est aussi la vue. Enfin, je pense qu'il faut... C'est dur de maîtriser ses sens.
Il y a des enjeux marketing très forts avec la couleur du vin, d'ailleurs. Il paraît qu'on va même voir débarquer des vins bleus. Ça existe déjà, ça, ou pas?
Non, il y a des cocktails bleus, mais des vins...
C'est ce qui est dit, en tout cas, dans l'article.
Je ne crois pas que ce soit, soit voué à un grand avenir.
Et pourquoi les légumes supportent mal les vins, Jean-Robert Pitt?
Ah bah, ça dépend quel...
Et surtout les vins rouges, apparemment.
Je pense qu'il y a les légumes verts en particulier, avec la salade, le vin ne va pas bien, mais c'est plutôt à cause du vinaigre. Et encore, si on prend du vinaigre, des vinaigres du Midi ou de la Méditerranée, comme le vinaigre de Xérès, on peut arriver à marier avec le vin, mais c'est pas le mariage d'amour le plus important. Je pense que avec tous les autres ingrédients, ça va très très bien. Mais on peut arriver à trouver des plats de légumes. Si vous voulez, avec un gratin dauphinois, vous servez un condrieux, si c'est pas un gratin savoyard au fromage. Un gratin dauphinois uniquement à la crème.
Ouais.
Et là, vous servez un condrieux. Si ce sont de bonnes pommes de terre, de la bonne crème, vous avez un accord formidable.
On va écouter ensemble un extrait du film Les Saveurs du Palais avec Catherine Fraud, dont vous allez reconnaître la voix.
Alors, mon idée, c'est de faire un repas de famille centré sur la Loire et ses affluents. On pourrait commencer par un foie de canard en gelée au coteau du Layon. Ensuite, cassolette de petits gris à la nantaise. Bien. Suivi d'une chaudrée charentaise.
Une chaudrée charentaise?
Oui, c'est une soupe de poisson et de blanc de sèche. Je la servirai en plat principal. Ensuite, fromage de chèvre et de brebis. Et pour finir, une jonchée rochefortaise.
Ah, la jonchée rochefortaise.
C'est quoi, ça?
C'est une sorte de fromage blanc. C'est un lait caillé parfumé à l'eau de laurier que l'on fait égoutter sur des tiges de jonc tressées.
Pour accompagner tout ça, il faut une logique. Je resterai dans la Loire. Dans le registre de la fraîcheur et de la minéralité. On pourrait commencer sur le foie gras avec un bouvret de chez Huette. Et on enchaînerait sur un silex de chez Dagneau.
Et pour la chaudrée?
La chaudrée. J'ai pensé à une coulée de serre en vieille vigne. Et on terminerait sur un clos rougeard du frère Foucault.
Va pour le Val-de-Loire.
Les choix sont bons, Jean-Robert Pitt.
Les choix sont très bons. En plus, c'est un repas qu'elle prépare pour François Mitterrand, qui était un amateur éclairé, à la fois de bonne chair et de bon vin. Et ce repas, autant que je me souvienne, pour avoir vu le film il y a quelques temps, est un repas qui est préparé pour sa famille et dans lequel il cherche un peu la petite Madeleine de son enfance charentaise.
Ouais, vous citez d'ailleurs un menu de François Mitterrand accueillant la reine d'Angleterre en 1992, pour montrer aussi justement la subtilité
qui est
française.
La personne qui a mangé le plus de fois en banquet d'État à l'Élysée, puisqu'elle est venue depuis le général de Gaulle, je crois 8 ou 10 fois en banquet d'État, et qu'à chaque fois les cuisiniers s'arrachent les cheveux. La dernière fois était un moment extraordinaire, puisque personne ne voulait servir de foie gras parce que le prince Charles interdit le foie gras à sa table. Et or, le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, a téléphoné au chef de Buckingham qui lui a dit « Mais la reine adore le foie gras, il faut lui en servir. » Et donc, ils ont servi foie gras de canard et d'oie.
On a évité l'incident diplomatique.
Non, mais le prince Charles n'était pas invité, alors donc ça n'a pas posé de problème.
Les accords mai 20, c'est un art français et c'est publié aux éditions du CNRS sous votre direction, Jean-Robert Pitt. Vous restez avec nous dans un instant, les mésaventuriers de la science.
Ça s'envole comme c'est venu.
Burning Peacocks avec Undulation à l'instant.
La tête au carré, le club.
Normalement, ça doit cristalliser.
Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, normalement ça doit, et ben c'est justement ce qui est arrivé à tous ces scientifiques qui vous ont inspiré, Jim Jordan, pour cette bande dessinée. Vous êtes auteur et illustrateur et donc vous publiez chez Maquis Sapa Les Mésaventuriers de la Science, une bande dessinée dans laquelle vous illustrez donc des anecdotes de terrain qui sont arrivées à des scientifiques du monde entier. Comment vous avez démarré ce projet alors au départ?
En fait, c'est les scientifiques eux-mêmes qui ont commencé à partager leurs histoires de terrain du coup sur Twitter avec le hashtag fieldworkfail. Et du coup bon, à l'époque ça avait, voilà, il y avait quelques médias qui avaient repris un peu ça, et du coup j'étais tombé dessus et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et du coup j'ai commencé à faire des voilà, j'avais un peu de temps à ce moment-là, j'ai commencé à faire des illustrations, et tout de suite en fait les scientifiques ont vraiment accroché parce que du coup, enfin, je pense qu'ils étaient intéressés pour partager un peu, voilà, ce côté un peu off de, voilà,
de leur travail, et qui fait que ça donne aussi une autre image de cette science de terrain qu'on connaît peu finalement. Hein.
Oui, c'est vrai. Et alors que du coup, enfin, je sais pas. Je pense qu'à la fois le grand public et les scientifiques sont assez demandeurs de communiquer de façon un peu plus informelle, du coup pour casser un peu la distance, je sais pas, que les il y a une espèce de cliché en fait de la part du grand public du scientifique avec une blouse blanche un peu respectable, et du coup qui intimide un peu parce que il est, voilà, il est infaillible, et enfin c'est un peu la façon dont on s'imagine, et du coup moi ça m'a intéressé d'aller un peu à dans l'autre sens, et de montrer des gens un peu comme vous et moi, qui font des bourdes, et à qui il arrive tout un tas de mésaventures.
À l'an prochain, faut-il casser la distance avec le scientifique hein, dans ses relations avec le grand public?
Distance? Quelle distance?
Il n'y a pas de distance? Non, ils sont proches de nous?
Oui, tout à fait.
Oui, non, franchement.
Bon, écoutez, au Collège de France, c'est notre métier.
D'être proche des gens?
Oui, bien sûr, oui. Ouais. Parce que les cours s'adressent à tout le monde, et ils sont gratuits.
Oui.
Donc depuis 1530, nous enseignons sans distance.
Très bien. La réponse d'Alain Prochian pour parler justement de ce lien entre le grand public et les scientifiques. Il n'y a pas de Français d'ailleurs hein, dans ces exemples.
Et non.
Ils viennent tous de l'étranger.
Oui, en fait.
Comment se fait-il?
Parce qu'en fait, à la base, ce projet a été tourné autour du coup des scientifiques anglophones. Et alors, sans doute que les scientifiques français ne sont pas assez...
Il faut leur donner le hashtag, alors.
Eh oui.
Parce qu'il doit être consulté, j'imagine.
Scientifiques français, partagez aussi vos bourdes de terrain.
Field Work Fail. Hein.
Voilà.
C'est le hashtag qui a été lancé, d'ailleurs, par une chercheuse, hein, elle-même, qui s'appelle Anne Hilborn.
Tout à fait.
Qui réunit beaucoup de monde hein, sur son compte Twitter, je vais aller voir tout à l'heure, et qui, donc, se fait l'écho de toutes ces aventures. Alors, évidemment, il y en a qui sont assez amusantes. Je disais tout à l'heure, très rapidement, en présentation, il y a cette scientifique donc qui a essayé de mettre un émetteur sur un crocodile et qui s'est retrouvé collé à lui, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça. Du coup, voilà, elle essayait de pister, de trouver l'aire de répartition du crocodile. Et du coup, elle a dû mettre un peu de trop de super glue pour coller l'émetteur, et elle s'est retrouvée collée pendant 10 minutes, pendant que tous ceux qui l'accompagnaient étaient évidemment morts de rire.
Oui, ça s'est passé à Bornéo, en Indonésie, sur un objet très dangereux. Heureusement, le crocodile, et vous nous mettez la méthode du scientifique, doit toujours avoir la gueule fermée et sécurisée avec un ruban adhésif costaud, hein, donc oui, ce qui lui a évité certains problèmes, évidemment.
Tout à fait.
Et donc, elle s'en est très bien sortie. Hein.
Oui, mais je l'ai d'ailleurs rencontré il y a quelques mois à Bristol, un peu par hasard. Donc voilà, c'est une des rares scientifiques que j'ai rencontrées, parce que sinon la plupart des scientifiques, en fait, je les ai plutôt contactés par internet en leur posant des questions par c'est email. Ça.
Et il y a cette histoire aussi de paléontologue. Alors je ne savais pas qu'on suçait les fossiles, en tout cas quand on essayait de trouver une pierre rare. C'est un des très bons tests pour savoir justement qu'on est tombé sur un fossile et non pas sur une pierre.
Oui, c'est ça. En fait, apparemment, du coup, j'ai jamais testé, hein, mais apparemment le fossile colle plus à la langue que la pierre, parce que du coup, comme l'intérieur du fossile, c'est de...
Il y a une texture poreuse, en fait.
Oui, une texture poreuse, bah, du coup, qui s'est conservée malgré la fossilisation. Et du coup, voilà.
Le fossile aspire l'humidité, l'humidité de la langue. Donc, c'est un bon test. Et le scientifique en question a avalé son fossile. C'est un petit peu embêtant.
Jean-Robert Pitre. Dans les calcaires du Chablisien, il y a des ostréas, des huîtres. Moi, je préfère sucer le Chablis que sucer les fossiles.
Ça, je vous fais confiance, effectivement. Alors, il y a un scientifique qui a découvert un tas d'os dans une tranchée. Il était certain d'avoir mis au jour un vieux amas de plusieurs siècles. Hein. Il étudiait, je crois, le Moyen-Âge. Et puis, il s'est rendu compte que c'était des os qui provenaient d'un
emballage de KFC.
De KFC, voilà. Ce qui est le McDonald's du poulet, ça. À peu près. Vous avez beaucoup de projets comme ça sur la science, parce que la bande dessinée est un style en plein essor là en ce moment.
Mais alors, moi ça m'intéresse, enfin c'est des questions qui m'intéressent. Bon, j'ai aucune formation scientifique, voilà, mais c'est des thèmes qui m'intéressent et du coup, en voyant que ça intéresse autant de monde, je me dis, bon, bah, pourquoi pas continuer à.
C'est un bon vecteur en tout cas, la bande dessinée, pour montrer la science.
Oui, c'est
justement,
ça, oui,
hein.
C'est tout à fait.
Et c'est vrai que ça marche bien. Depuis 2-3 ans, on voit beaucoup de bandes dessinées qui apparaissent. Marion Montaigne, qui est un peu la chef de file, hein, on va dire.
Oui, tout à fait.
A commencé et puis beaucoup ont emboîté le pas.
Et tant mieux. Je pense que il y a beaucoup de demandes pour. À la fois. En termes de communication de la part des scientifiques, enfin en tout cas ceux qui j'ai rencontrés, et du coup qui sont facilement du coup enthousiasmés pour ce projet-là, et du grand public, voilà, il y a une partie du grand public qui s'intéresse aux sciences, mais qui peut être facilement intimidé.
Donc la BD, c'est une façon justement de les rassurer, de les faire entrer en tout cas dans d'autres domaines. Et puis il y a ce financement participatif qui vous a permis de réaliser cette bande dessinée, hein, qui est à l'origine justement de cet ouvrage. Ça s'appelle Les Mésaventuriers de la Science, anecdotes de chercheurs tout-terrain, avec 25 scientifiques qui nous livrent leurs expériences malheureuses mais drôles la plupart du temps, heureusement. Allez, vous restez avec nous dans un instant, Alain Prochian, pour nous parler de ces scientifiques en exil dans le Club des Têtes au Carré. Jane B et la voix de Jane Birkin à l'instant.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Alain Prochian, neurobiologiste et administrateur du Collège de France, avec ce programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil. Ce programme s'appelle Pause, on souhaitait en parler dans ce club de la tête au carré. Vous nous expliquez un petit peu le principe, Alain Prochian, comment est née Pause justement ?
La Pause est née de... deux initiatives, enfin, surtout d'une initiative du secrétaire d'État à la recherche et l'enseignement supérieur, de M. Mandon, à l'époque, sur la base d'un rapport qui avait été donné par l'IORA Israël sur les situations de chercheurs et d'enseignants dans des pays où le contexte géopolitique est dramatique. La Turquie, le Yémen, la Syrie et quelques autres, et qui se trouvent privés de leurs droits, en danger physiquement, intellectuellement, et il n'y avait pas en France de système pour les accueillir, comme il y a en Angleterre, comme il y a en Allemagne, comme il y a aux États-Unis.
Et comme il y a eu une certaine tradition quand même,
et
même
comme il y a
au
eu,
Collège
évidemment,
de France,
le comité Radkin entre les deux guerres. Et puis en même temps, le Collège de France avait fait un grand colloque de rentrée, comme tous les ans, mais cette fois-ci sur la question de l'exil, des migrations, de l'hospitalité, hein, je dirais au sens large. Monsieur Mandon est venu l'ouvrir, et puis les deux choses se sont coalescées de telle sorte que dès le mois de janvier, on a pu, avec 1 million d'euros donnés par Monsieur Mandon et son secrétaire d'État, démarrer ce projet, qui est un projet, à mon avis, tout à fait bienvenu, et qui est fait pour durer, j'espère.
Ouais. Donc 1 million d'euros par an
Non, c'est beaucoup plus que ça. Ensuite, M. Cazeneuve nous a donné un 2e million, ce qui fait qu'on a pu démarrer le projet très rapidement, ça s'est fait en quelques mois,
ouais.
Grâce à l'aide d'une équipe tout à fait formidable, la Fondation de France, la mairie de Paris, le Collège de France, et puis... l'équipe dirigée par Laura Loyac, qui est derrière moi, et je ne vais pas te citer tous les noms parce que j'en oublierai évidemment, et donc je fâcherai des gens, mais ça s'est mis en place vite. On a un comité de parrainage qui est fait de très grands scientifiques, mais aussi de personnes de la société civile, qui permettent de lever de l'argent et en même temps d'évaluer des dossiers. Et puis on a un comité directeur, on a une aide formidable, je dirais, du ministère de l'Intérieur et de Quai d'Orsay, parce que ces gens-là sont en situation dangereuse, il faut les faire venir, il faut leur trouver des passeports,
ouais.
Il faut leur trouver des visas. Et j'ai été tout à fait émerveillé par ces espèces d'incroyables mouvements de solidarité vis-à-vis de ces collègues, qui sont des collègues de très haut niveau, et que nous avons tout à fait intérêt à sauver pour les faire repartir après si ça s'arrange chez eux, on peut le souhaiter. Et garder avec eux des contacts très riches dans le futur, mais aussi s'ils veulent rester, évidemment, encore mieux.
Est-ce que ce sont des scientifiques qui peuvent venir avec leur famille? Comment ça se passe? Parce qu'a priori, ils sont là pour s'installer pendant un temps.
Oui, nous, on peut pas les, financer. On pourra peut-être si on a plus d'argent. Des fondations privées, on commence à donner, la Fondation Michelin. Une société de finance, en fait, qui se fait de la physique financière, qui a donné aussi de l'argent. En fait, ça s'accumule et donc...
ça permet de les accueillir dans des conditions optimales aussi.
Ça permet, c'est ce qui se passe exactement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont souvent, pas toujours, mais souvent eu un lien avec la France avant, comme doctorant, comme post-doctorant. Et quand la situation est devenue épouvantable chez eux, en Syrie par exemple, au Yémen bien entendu, en Turquie c'est épouvantable ce qui se passe, ils ont pris contact avec leurs anciens mentors, et puis ce sont les universités, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, qui font remonter les dossiers, qui donnent une partie de l'argent, et nous on réévalue au niveau du Collège de France où est fondée, basée la structure. On réévalue pas scientifiquement vraiment, on peut vérifier un petit peu, mais on regarde dans quelle mesure la personne ou les personnes sont véritablement en danger. On est obligé de faire un classement malheureusement parce qu'on n'a pas des fonds infinis, et on complète.
Donc vous priorisez les cas?
On priorise en fonction du danger dans lequel est la personne. Et puis, s'il y a des familles, eh bien, on met plus d'argent. Et puis, on était très aidés par le Crous, par exemple, qui met des logements. C'était une espèce de mouvement. La première réunion qu'on a eue au ministère avec tous ces gens autour de la table, on s'est dit que vraiment, c'était un beau pays, quoi. C'est-à-dire que
il était temps parce qu'il y avait un retard français par rapport à.
Il y avait un retard français,
puis
il y avait une mauvaise
pays.
Ambiance. Rappelez-vous quand même, 2016-2017, on n'a pas entendu que des choses très sympathiques sur les étrangers, en particulier. Et donc, tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait là une vraie solidarité et qu'on pouvait sauver, physiquement, sauver des hommes, des femmes, des enfants, et puis aussi des intelligences. Et je crois que c'était quelque chose de très fort. Je souhaite évidemment que ça continue, que ça s'amplifie, parce que aujourd'hui c'est la Turquie, c'est le Yémen, c'est la Syrie, mais demain évidemment on sait très bien que les crises géopolitiques sont sans fin,
ouais.
Et ça continue aux États-Unis. Les mouvements qui ont été créés aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne entre les deux guerres, eux ne se sont jamais arrêtés. Alors que ce qui s'est créé en France entre les deux guerres, évidemment, s'est arrêté avec l'occupation, mais c'était parti en Angleterre avec évidemment l'appui du général de Gaulle. Mmh. C'était parti aussi aux États-Unis, mais ce n'était pas véritablement revenu sous forme institutionnelle, je dirais, dans notre pays. Et donc, une deuxième fois, je pense que le Collège de France a joué un rôle qui est son rôle, hein, parce qu'il est le Collège de France, il est proche des gens à qui il enseigne, M. Vidard.
Oui, M. Prochain.
Mais il est aussi proche de la société. Mmh. Et je crois qu'il fait là un travail qui est le sien. Voilà.
Jean-Robert Pitt, quand on regarde la carte géopolitique du monde aujourd'hui, qu'est-ce qui la caractérise précisément ?
Oh bah, elle est pas plus, elle va pas plus mal que dans le passé. Au XXe siècle, on a quand même vécu des situations beaucoup plus dramatiques encore que celles d'aujourd'hui et à nos portes en Europe. Hein. Vous avez parlé de la fuite des savants et de quantité de gens au moment du nazisme et au moment du communisme aussi. Donc c'est quand même des migrations scientifiques, mais qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y avait aussi d'autres migrations derrière considérables. Non, ce que je trouve formidable, c'est que la France accueille des chercheurs de, j'espère, de qualité du monde entier, et que ça compense un tout petit peu la fuite d'un certain nombre de cerveaux vers
français,
les français vers, oui, les laboratoires américains, par exemple, ou d'autres pays. Et je pense que nous avons besoin de réfléchir à notre attractivité. Bon, là, on fait face à des situations dramatiques, à des situations personnelles critiques, mais je pense qu'il y a derrière toute une réflexion à avoir sur l'attractivité scientifique de la France, et je pense que on n'y a pas assez réfléchi dernières années, et en particulier, alors au Collège de France peut-être, mais dans les universités, guerre, ouais, hélas.
Alain Prochant, c'est juste une question de moyens, le fait que, par exemple, un chercheur américain aura certainement peu envie de venir travailler chez nous.
C'est une question qui mériterait, je crois, une véritable émission.
Oui,
non, mais je vous encourage à la faire. Oui, il y a évidemment les questions des moyens, il y a aussi la question des carrières. Il y a la question des outils. En France, il y a une très forte tradition scientifique qui fait que nous sommes encore capables de tenir notre rang de 5e ou 6e puissance scientifique mondiale. La question qui se pose aujourd'hui, allons-nous basculer du côté du Portugal, de l'Italie ou de l'Espagne, ou recoller à l'Allemagne et aux pays du Nord et à la Suisse? Je pense que c'est un enjeu majeur. Et je ne peux pas en discuter comme ça, juste au coin de la table. Je pense que ça mérite une véritable émission. Mais c'est une question qui est très fondamentale, je crois, pour l'avenir de notre pays. Notre avenir scientifique, mais aussi notre avenir économique.
Combien de scientifiques accueillis en France, donc depuis que le programme existe?
Donc, c'est en un an, hein, on a accueilli 63, mais il y en a une 18 qu'on n'a pas encore, ou 15 qu'on n'a pas encore pu faire venir, parce que ils ont été privés de visa, en particulier en Turquie, et donc il faut les faire venir autrement. Mmh. Il y en a qui sont venus, il y en a un par exemple qui est venu par la Grèce et puis qui est arrivé. Et là, on a eu l'aide du Quai d'Orsay et l'aide du ministère de l'Intérieur pour lui faire avoir des papiers immédiatement. Mmh. On a une femme yéménite qui est à Aix-Marseille et qui est arrivée avec des outils et des documents de tradition orale, de culture orale au Yémen. Puis alors des gens qui viennent qui sont venus, si vous voulez, de Syrie, pas pour les mêmes raisons que les gens qui viennent de Turquie. En Turquie, c'est essentiellement, vous savez, la pétition des académiques prenant position sur la question kurde, qui fait qu'ils ont été extraordinairement maltraités et on leur a retiré leurs papiers. Donc il y en a qui ne peuvent plus bouger. Donc pour l'instant, on en a 63, mm-hmm. Il y en a 48, je crois, qui sont arrivés. Je peux me tromper d'un ou deux. La situation peut évoluer d'ailleurs. Mais nous pourrions en avoir 100, 200, 300 si nous avions les moyens de le faire. Et c'est, ouais, pour ça qu'il y a un appel, évidemment, aux donateurs privés. Hein. La Fondation Michelin nous a donné quand même 200 000 euros, c'est pas mal. Le CNRS nous a donné 250 000 euros. On a été aidé, comme j'ai dit, par la mairie de Paris, par les gouvernements successifs. Et puis, évidemment, nous cherchons à mobiliser tous les gens de bonne volonté qu'ils versent à la Fondation de France, qui versera sur le programme POSE. On peut donner d'ailleurs directement au Collège de France, mais la Fondation de France a joué un rôle formidable.
On peut aller vraiment sur le site du Collège de France, puisque sur la première page d'accueil du site, il y a le programme POSE, hein, ce programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, qui est là. On peut cliquer et avoir tous les renseignements possibles.
C'est en tête, je dirais, de gondole sur le site du Collège, parce que c'est une opération que le Collège porte avec enthousiasme.
Et toutes les informations sont évidemment sur le site de la Tête au Carré. Alain Prochant, dernière question. Est-ce que ces scientifiques que vous accueillez trouvent en France des postes équivalents à ceux qu'ils avaient dans leurs pays respectifs.
Ben, la question, c'est d'abord de les sortir de l'enfer, de leur donner les moyens de se remettre au travail pour un an ou deux ans, et ensuite de les réinsérer ou de les insérer complètement dans le tissu scientifique ou industriel. Mmh. Hein, parce que notre idée, c'est aussi... On peut en garder dans le titre scientifique, mais il y a des débouchés des scientifiques qui sont en dehors de la science, qui sont dans l'industrie. Et donc ça, c'est une chose à laquelle nous sommes très attentifs et qui est pour nous une mission importante pour que ce ne soit pas juste un fusil à un coup. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, donc ça s'appelle le programme PAUSE et vous avez toutes les informations sur le site du Collège de France qui va d'ailleurs reprendre sa saison bah lui aussi. Vous avez en ce moment un colloque sur le rêve des formes, l'art et la science et puis à partir du mois d'octobre également vos autres conférences à suivre toujours sur Internet parce que ça marche très très bien. On peut podcaster et suivre en direct toutes les conférences avec les très nombreux scientifiques
nous
qui travaillent
encore améliorer
pour le
notre
collège.
Site.
Voilà. Et puis il y aura le Festival de géographie de Saint-Dié, Jean-Robert Pitt, qu'on peut signaler. Ce
sera qui a lieu
fin septembre.
29, 30 septembre et 1er octobre à Saint-Dié-des-Vosges et sur le thème des rapports entre l'homme et l'animal.
Merci beaucoup, et Jim Jourdan, merci pour votre venue avec cette BD sur les mésaventuriers de la science. Et ainsi s'achève ce Club des Têtes au Carré avec lundi un dossier consacré aux autres formes de vie ailleurs. On les cherche, hein, ces fameux extraterrestres. Eh bien, on se mettra sur leur piste dès lundi avec mes invités.
France Inter, partenaire avec Le Monde de Mythologie. Une collection d'ouvrages passionnants qui racontent les fascinantes aventures des dieux et des héros de la mythologie grecque et latine. Découvrez à quel point les grands mythes transmettent un savoir universel, indispensable à la compréhension de l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Le triomphe de Zeus, les 12 travaux d'Hercule, les voyages d'Ulysse, plongez au cœur de la mythologie classique. Mythologie, une collection Le Monde, un partenariat France Inter.
Merci à Dimitri Gronoff qui était aujourd'hui à la technique Affaires Sensibles avec Fabrice Ouel dans un instant. La fiction du vendredi consacrée à Aimé Césaire. Bon week-end à tous, il est 15h.